Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est le week-end des experts sur RMC, 7h10. Merci d'être là et de nous suivre comme chaque dimanche pour ce week-end des experts. Avec Laetitia Barlerin qui m'accompagne jusqu'à 8h, c'est notre vétérinaire. Et puis juste après ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, 2 heures dédiées à l'automobile avec toutes vos questions auto au 32-16. Et en ce dimanche, nous évoquerons avec Jean-Luc les mandataires. Faut-il faire confiance aux mandataires? Vous savez, ces mandataires automobiles qui ont une mauvaise presse à leur début. Pourtant, en 2015, ils sont de plus en plus plébiscités par les clients qui veulent faire des économies et profiter de véhicules suréquipés. Le marché a bien évolué et les prix ont baissé. Hein. On trouve des réductions de 20 à 30, voire 40% sur certains véhicules en passant par les mandataires. On en parlera tout à l'heure avec nos invités. Laetitia, deuxième partie de ce rendez-vous animaux. Le 32-16 pour joindre notre vétérinaire ou bien animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous envoyer un...
Un miel.
Alors pourquoi un miel? Parce que ce matin, nous parlons des abeilles, Laetitia.
Nous parlons des abeilles et...
je pense, comme l'a dit justement, excusez-moi, je vous coupe Laetitia, mais comme l'a dit justement notre productrice Aurélie, c'est une émission qui va faire le buzz.
Oh, bah j'espère bien.
Ah, bzz, bzz.
Des abeilles.
Ah là là, c'était Bourville. Oh, c'est Bourville, ça.
Je connais pas celle-là.
Évidemment.
Bon. Et oui, nous allons parler des abeilles, mais aussi des abeilles en danger. Vous le savez, on a beaucoup d'ennemis des abeilles et on a une production de miel en France qui chute vraiment de 50 à 80% en 10 ans. C'est énorme. Et nous avons avec nous Gilles Lagneau qui est président de l'UNAF, c'est l'Union Nationale des Apiculteurs Français. Gilles, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, comme je disais, les abeilles sont en danger, en tout cas dans nos campagnes, hein, et ça on en parle, c'est vrai qu'on en parle régulièrement dans cette émission depuis des années. On parle d'hécatombe, alors j'ai lu des chiffres comme une chute de 15 à 30% d'abeilles selon les régions, ce qui est quand même énorme, en un an. Alors on a parlé des pesticides, on a parlé du frelon asiatique, on en parlait tout à l'heure, de maladies. Sait-on aujourd'hui pourquoi les abeilles connaissent une disparition massive en France?
Mais disons que oui, on sait. Principalement, c'est quand même lié aux pesticides utilisés dans le monde agricole. Pour donner un exemple, par exemple, de territoire qui se porte toujours bien, c'est l'île de Ouessant, qui a donc pas d'agriculture, exempt de tout ce genre de choses, et qui n'a qu'une perte que de 1 à 3% par an. Un peu comme nous, sur le continent avant, où on avait une perte avoisinant les 5%. Donc, c'est déjà un point important. On voit qu'il y a quand même un endroit qui est resté protégé et le reste, il subit de grosses pertes. Et c'est vrai que c'est couramment, on dépasse les 30%. Alors, les pesticides, bon, il y a eu de nombreuses analyses aujourd'hui.
Qui le prouvent quand même.
Disons que, alors, on pointe souvent du doigt, nous, les néonicotinoïdes.
Oui.
Il y a quand même 800 études qui montrent la toxicité de ces produits-là. Donc, c'est pas rien. Mais c'est vrai que derrière ça, on entend multifactoriel souvent, en disant, vous voyez, il n'y a pas que les pesticides. On parle de maladies, mais bon, les maladies aussi explosent. C'est aussi dû à l'affaiblissement des abeilles.
Et oui,
parce qu'elles ont pu avaler, entre guillemets.
C'est un peu comme nous avec la pollution qui entraîne un affaiblissement de l'organisme. Et puis, c'est la porte ouverte à des épidémies, des maladies. On parle aussi du frelon asiatique. Qu'en est-il?
Alors oui, le frelon asiatique aussi est quelque chose, je dirais pas de nouveau, parce que lui, ça fait une dizaine d'années qu'il est apparu dans le paysage. C'est un problème aussi. Mais là, pareil aussi, quand il va avoir plusieurs colonies d'abeilles devant lui, il choisira les plus faibles. Alors pour un peu qu'elle ait été affectée avec des pesticides, qu'elle est plus mal en point, c'est elle qui sera la plus attaquée.
Alors, quand je dis qu'une production de miel en France a chuté de 50 à 80% en 10 ans, c'est énorme. Ça veut dire que bientôt, le miel ça va valoir de l'or. Mais il n'y a pas que ça. C'est que le déclin des colonies d'abeilles touche aussi nos cultures. C'est-à-dire touche aussi, enfin, il y a des conséquences sur nos cultures, donc sur nous aussi, quelque part.
Et oui, l'impact de la disparition des abeilles et des pollinisateurs en général est quand même quelque chose de très grave pour l'humain. En gros, 35% de notre alimentation dépend du travail des abeilles et 65% de la diversité de ce que l'on mange. Donc l'impact, il est considérable, ça va au-delà de la production de miel, en effet, parce que bon nombre de Français ne consomment pas de miel et vivent très bien, et heureusement, mais mangent différentes denrées, différents produits qui n'existent que grâce au travail fait par les pollinisateurs, dont les abeilles.
C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'humains ?
Bah, plus d'humains, j'ose espérer que non, mais...
Mais ça aurait un impact, en tout cas.
Oui, ouais. Ça aurait un impact non négligeable. Vous n'avez qu'à faire disparaître 35% de notre alimentation. Je ne sais pas comment on peut gérer ça. C'est une catastrophe sans précédent.
Est-ce qu'on peut imaginer les végétaux qui disparaîtraient naturellement si demain, ils n'étaient plus pollinisés par les abeilles ?
Ah oui, c'est clair que si les végétaux n'étaient plus pollinisés par les abeilles, ils disparaissent. Par exemple, pour faire des salades, rien qu'un plant de salade, eh bien, il faut qu'il soit pollinisé. La salade, elle va pousser, elle va monter en fleurs, il faut qu'elle soit pollinisée. Si elle n'est pas pollinisée, elle va sécher et il n'y aura pas de graines. Voilà, c'est valable pour bon nombre de végétaux.
Et on parle d'abeilles, mais c'est tous les insectes pollinisateurs qui, de toute façon, sont aussi touchés, comme les abeilles, par ces pesticides.
Voilà, oui, on s'aperçoit bien. Pour peu que vous ayez un petit peu d'âge et que vous reveniez 20 ans en arrière, quand on traversait la France en voiture, on avait le pare-brise et les optiques couverts d'insectes. Dans les stations, il y avait des essences, il y avait un seau et une éponge pour laver les pare-brises. Aujourd'hui, vous pouvez traverser la France, votre voiture reste quasiment propre. Quoi.
C'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que, alors, vous savez, quand j'achète du miel, alors je regarde toujours, bien sûr, la provenance, parce que moi j'adore le miel, et on a beaucoup de miel qui vient d'autres pays européens, je vois souvent Italie, Roumanie, est-ce que cette hécatombe ne concerne que la France ou c'est vraiment toute l'Europe qui est concernée ?
L'Europe est concernée en général et surtout dans les zones d'agriculture intensive.
Comme par hasard.
Oui.
Alors, vous avez parlé des pesticides, des néonicotinoïdes, oui. Voilà, qui sont dans votre ligne de mire depuis pas mal d'années. Alors, vous avez eu gain de cause puisqu'à l'Assemblée nationale, le mois dernier, en première lecture, on a eu un amendement qui interdisait ces produits à partir de janvier 2016. Est-ce que vous êtes content ?
Alors, c'est déjà, je dirais, un pas dans le bon sens. Mais satisfait pour l'heure, c'est pas gagné. Parce qu'il est passé, donc comme vous le dites, cet amendement est passé à l'Assemblée.
Oui.
Il doit passer
au Sénat.
Alors, quand on voit la vote du Sénat l'autre fois sur la résolution qu'avait proposé Joël Labbé, c'est pas bon. Mm-hmm. Ça avait été rejeté. Donc, je sais pas comment il va se comporter au Sénat. Il doit revenir en deuxième lecture à l'Assemblée, qui peut avoir gain de cause si elle est toujours sur la même position. Mais il faut savoir que ça avait été aussi contre, je dirais, l'avis du gouvernement. Donc, on verra bien. Donc ça va être une histoire de plusieurs mois. Et ici, il passe quand même en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il faudra convaincre nos collègues européens d'en faire de même.
Et oui.
Donc il reste encore beaucoup de chemin. Il ne faut pas crier victoire trop vite. C'est un pas dans le bon sens. C'est déjà une avancée positive. Alors, mais c'est pas gagné.
Je sais qu'il y a certains pesticides où il y a marqué dessus abeilles. Ça veut dire que ça protège les abeilles. Et vous insurgez en disant, mais non, ça ne les protège pas.
Et oui, justement, cette fameuse mention abeille est quelque chose de trompeur. C'est vrai que sur certains produits, on voit une abeille dessinée et c'est marqué abeille. Bon, alors, on pourrait penser...
Ben oui, parce que les agriculteurs, ils en ont besoin quand même de ces pesticides pour leur récolte.
Besoin, oui, non, c'est discutable. Mais cette mention abeille est trompeuse. Et c'est bien marqué, il faut aller dans les petites lignes, traiter en l'absence d'abeilles, etc. Et c'est malheureusement loin d'être respecté, quoi.
Est-ce qu'il y a des pesticides où on peut mettre un label, voilà, les abeilles c'est bon, elles ne sont pas décimées avec ce pesticide?
Oui, il existe des produits de traitement qui sont pas nocifs pour les abeilles. C'est...
D'accord. Gilles, vous restez avec nous.
Oui.
Dans un instant, on va accueillir Annie qui a fait la triste découverte d'abeilles mortes au sortir de l'hiver. Elle se pose la question de savoir pourquoi ces abeilles seraient mortes. On va retrouver son témoignage dans un instant et vous restez avec nous. Justement, tout comme Annie, vous voulez poser vos questions. Est-ce que vous avez constaté justement qu'il y a moins d'abeilles dans votre entourage, dans votre environnement? 32-16, vous évoquez peut-être aussi l'idée d'avoir une ruche dans votre jardin. Dites-nous aussi, est-ce que ça vous intéresse? Témoignez si vous en avez déjà une depuis quelques mois, quelques années. Est-ce que vous arrivez à récolter votre miel? Est-ce que vous avez peur des abeilles ou pas? N'hésitez pas à nous appeler pour témoigner, poser vos questions. 32-16 ou animaux@rmc.fr. On revient dans un instant. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le week-end des experts sur RMC, 7h20. Et merci d'être là en ce dimanche matin jusqu'à 8h. Laetitia Barlerin m'accompagne. Ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, on accueille tout de suite Annie qui nous appelle au 3216. Bonjour Annie.
Oui, bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour Annie. Alors avant toute chose, avant d'écouter votre question, Annie, on va vous annoncer quand même une bonne nouvelle. On vous offre le livre La nature en famille au printemps.
Oui, super. Voilà. Merci beaucoup.
De Patrick Luneau.
Aux éditions La Salamandre.
Parfait.
Voilà. Je crois que vous aimez bien la nature.
J'ai eu une vision d'horreur en ouvrant ma ruche parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'activité. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle dort. Or, elle ne dort jamais. Et donc, des cadavres, partout des cadavres. Ce que je ne comprends pas, c'est que devant la ruche, au sol, il y avait un tas, c'était noir de cadavres. Alors, pourquoi elles sont venues mourir devant? Et puis, voilà, donc elles étaient presque en train de travailler, donc puisqu'elles étaient mortes en travaillant, parce qu'elles étaient sur leurs alvéoles. Bon, ça, je pose des questions. Et puis, on m'a dit que c'était à cause des piscines environnantes, elles vont boire, et le chlore, donc les empoisonne. Voilà.
Ah.
Alors, je suis toujours avec ces points d'interrogation. Mmh.
Gilles,
qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le chlore de la piscine peut tuer les abeilles?
Oh oui. Je suis pas convaincu, non, que ce soit le chlore, parce que c'est bien la première fois que j'entends. Oui.
Parce que souvent, on voit des abeilles, notamment l'été dans le sud, quand il fait très très chaud, venir boire les petites flaques qu'il y a tout autour des piscines, on n'a pas l'impression que ça les met en danger. Hein.
Non, mais il faut savoir que l'abeille, c'est vrai, c'est une grande consommatrice d'eau. Une ruche a besoin entre 60 à 100 litres d'eau en une année. Donc c'est énorme,
quand même.
Et elle ne la stoppe pas. Alors souvent, c'est vrai qu'au niveau d'aller boire, l'abeille s'intoxique souvent, mais c'est souvent sur des végétaux qui ont été traités, ou des végétaux qui, je dirais, de par leur croissance, rejettent des petites gouttelettes d'eau. Hein. C'est pas un traitement en surface, c'est ce qu'on appelle la gutation. Les plantes, elles transpirent en quelque sorte. Et si c'est des plantes qui ont été traitées, enfin, ou des graines enrobées, la plante sécrète des gouttelettes d'eau hyper toxiques. Mais en général, les abeilles, elles ne reviennent pas à la ruche, parce que c'est des doses tellement fortes qu'elles meurent en route, quoi. Hein. Non, je pencherais plus pour une intoxication brutale, quoi, sur un produit qui a été répandu. Mais pour l'eau, je suis surpris quand même, monsieur.
Donc là, enfin bon, bien sûr, hein, on peut pas donner un diagnostic comme ça, pour moi si on me demande pourquoi le chien est malade, mais là, comme ça, une mortalité soudaine dans une ruche, ça peut être dû à un produit toxique alors.
Ça peut être dû à un produit toxique, mais ça peut être dû à plusieurs causes aussi. Pour peu, peut-être que la colonie n'avait plus assez de provisions. Il y a plusieurs facteurs. Faut voir. Là, je peux pas me prononcer comme ça, ne les voyant pas, quoi. Mais c'est malheureusement, maintenant, on a moins tendance, je dirais, à voir des cadavres, ce qui fait qu'on peut pas analyser, parce que très souvent, les abeilles disparaissent en cours de route, ne reviennent pas à la ruche. Et c'est plus un phénomène de disparition. Mortalité forte avec un tapis d'abeilles devant, c'est moins souvent qu'on le constate.
Alors, on parle beaucoup de réchauffement climatique, de changement de climat. Est-ce que ça a des conséquences, justement, sur les abeilles, ou finalement, elle est plus costaud que ça?
Je suis pas convaincu que le réchauffement climatique ait de grosses conséquences. Je dis pas que ça les perturbe pas, hein. Mais après-guerre, on a ramené énormément, donc après la guerre, quand j'ai dit la guerre, c'était 39-45, hein. Après-guerre, en France, a été ramené énormément d'abeilles en provenance d'Italie. L'Italie était plus chaude, au climat plus chaud que ce qu'on a chez nous en France, surtout France du Nord. Et on n'a pas rencontré de problème, quoi. Donc,
elles se sont adaptées.
Voilà, se sont adaptées. On n'avait pas de mortalité comme on peut le constater aujourd'hui, qu'on n'avait pas autant de pertes. Hein. Donc je relativiserais le réchauffement climatique. Je ne dis pas qu'il ne pèse pas, mais je le relativiserais.
Alors, il y a un endroit où les abeilles sont en pleine forme, c'est en ville. Alors, l'UNAF que vous représentez a lancé il y a quelques années le programme L'Abeille Sentinelle de l'Environnement, et vous disposez des ruches en ville. Est-ce que la ville, c'est l'avenir de l'abeille? Et est-ce vrai que le miel est meilleur en ville qu'à la campagne?
Alors, dire que l'avenir de l'abeille est en ville, sûrement pas. On ne pourrait pas regrouper les ruches en ville, ça poserait un gros problème déjà et d'une, elles n'auraient pas assez à manger.
Enfin, elles n'auraient pas assez de fleurs.
La place de l'abeille est quand même avant tout dans nos campagnes. Bon, en ville, elle a toujours existé, pour autant en ville, et c'est un peu un retour vers la ville. Et c'est un endroit privilégié, c'est vrai en effet, parce qu'il est exempt traitement intensif, de surface intensive. Je compare souvent la ville par rapport à la campagne en disant, en ville, vous prenez les 5 hectares en ville avec des jardins, vous aurez une diversité de végétaux dans les jardins, plantes de framboises, plantes de thym, etc., j'en passe. Vous prenez malheureusement 5 hectares parfois en campagne, si c'est une prairie de régras, il n'y a rien à manger, si c'est un champ de maïs, il vaut mieux pas s'approcher, etc. Mais alors après,
et oui, surtout que beaucoup de municipalités veulent des jardins bio, hein, ils n'utilisent pas de pesticides, voilà, etc. Parce qu'en plus, c'est des jardins où vont des enfants.
Oui, oui, oui. Donc c'est quand même un milieu quand même qui est plus propre, qui est plus privilégié. Alors après, de dire que le miel de la ville est meilleur que le miel de la campagne, non, faut pas.
Bah, en tout cas, il est pas.
Il est très bon le miel de la ville.
Il est très bon, voilà.
Mais le miel de la campagne aussi, parce que l'abeille est quand même un filtre quelque part. Parce que quand elle va chercher du nectar sur une fleur, si celui-ci est intoxiqué, l'abeille ne rentrera pas à la ruche, l'abeille mourra avec.
Ah d'accord, oui.
Ouais. Ah oui, donc c'est un peu comme si vous mettiez du carburant dans votre réservoir, mm-hmm, pour faire de la route, et arriver chez vous, vous vidangez le réservoir. Mais si vous avez fait trop de route, vous n'avez plus rien à vidanger, ce qui fait que l'abeille a un rayon d'action relativement limité. Mm-hmm. Ça lui sert pour alimenter ses muscles. Et si le carburant n'est pas bon, le moteur va tomber en panne, quoi.
Ça veut dire que naturellement, le miel est exempt de polluants et n'est pas mauvais pour la santé.
Il n'est pas mauvais pour la santé. Dire qu'il est exempt, ce serait mentir, mais on trouve des traces infimes dedans de pesticides qui peuvent passer. Mais à ce moment-là, j'ai dit, il faut arrêter de respirer, on respire encore dans l'air, quoi.
Ça, c'est clair.
Alors, comment reconnaître, dites-nous un peu, d'un point de vue pratique, un miel 100% produit en France? Parce que, faut le dire quand même, il y a beaucoup, je dis pas beaucoup, mais enfin, il y a quand même des apiculteurs ou des fabriques qui importent du miel et qui le mettent en pot en France, et du coup, on est un peu berné parce qu'on pense que c'est du miel produit en France et il n'est pas produit en France.
Alors normalement, s'il est produit en France, on peut le savoir rien que déjà par les analyses polliniques. Vous pouvez avoir du miel produit en Roumanie, qui serait du miel d'acacia. Par exemple, on peut faire de l'acacia en France, certes. Mais si on fait une analyse bien comme il faut, on trouvera d'autres pollens dedans qui ne sont pas des plantes de chez nous.
Oui, mais nous, quand on achète, comment on fait?
Sur le pot, normalement, il doit être le producteur doit bien marquer que c'est du miel de France.
Oui. Il faut pas s'arrêter au fait que le pot est fabriqué en France. Faut vraiment que ça soit marqué Made in France.
Oui, voilà, quelque sorte. Oui.
Et il y a pas de problème.
Il devrait pas y avoir de problème, sauf forcément si vous êtes tombé sur quelqu'un de malveillant. Mmh.
Qui fait des mélanges. Parce qu'il y a des miels qui viennent de Chine.
Oui, mais il y a des contrôles là-dessus.
Voilà, ils mettent du glucose dedans.
Oui, oui.
Bon, donc il faut bien lire les étiquettes, quoi.
Voilà. Et puis bon, je pense que si on fait son marché, alors je ne suis pas contre les grandes surfaces, loin de là, et on trouve des petits producteurs.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Très bien, Gilles, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
Et tout ça est passionnant. On va poursuivre, Laetitia, sur les abeilles jusqu'à 8h dans ce rendez-vous animaux avec Claude Merle, qui est vice-président de l'abeille dauphinoise, qui viendra nous rejoindre. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous appeler au 3216. Est-ce que vous êtes intéressé par les abeilles? Est-ce que si vous avez un jardin, vous aimeriez avoir une ruche? Quelles sont vos opinions sur ce sujet? Vous pouvez nous joindre pour nous dire, poser vos questions et témoigner. 3216, animaux@rmc.fr, la météo, les infos, et on est de retour. À tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC.
Laetitia Barleringue, 7h33. Oula, attention, Laetitia. Je m'approchais, mais c'était simplement par par amitié, hein, bien sûr. Et là, d'un coup, vous sortez votre lion, là, ça calme tout le monde, hein. Attention. Laetitia, petite question flash. Et c'est la question de Lucien qu'on a reçue sur la page Facebook de Vos animaux sur RMC. Est-il obligatoire d'attacher son chien en voiture? Peut-on aussi avoir une amende si on n'attache pas?
C'est vrai qu'en ce moment, on a des amendes pour
tout.
Alors, c'est bien de s'inquiéter. Alors, écoutez, rien n'est dit de façon explicite, dans le code de la route, mais ça va peut-être changer. Mm-hmm. C'est jamais. Ce qui est dit quand même dans le code de la route, que rien ne doit entraver, gêner la conduite du conducteur. D'accord. Bien sûr. Donc on peut, vous savez, on peut être verbalisé si par exemple on a son chien sur ses genoux et qu'on conduit, parce que quelque part, les forces de l'ordre peuvent dire, il entrave votre conduite, il vous gêne. Mmh. Donc c'est vrai que normalement, mais c'est pas marqué dans le code de la route, hein, en tout
d'accord.
cas. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de point en moins si vous avez un chien sur les genoux, normalement. C'est pas. Mais bon, ce qui, pour votre sécurité, pour sa sécurité, il faut l'attacher, c'est sûr. Parce que, d'abord, il peut être pris de panique, sauter sur vos genoux, sauter sous vos jambes aussi, pourquoi pas, et créer un accident. Il peut aussi, lors d'un coup de foin, devenir un vrai boulet qui vient se, voilà, percuter la vitre avant. Donc, il faut l'attacher. Alors, il y a des harnais qui s'attachent aux ceintures de sécurité pour
d'accord.
votre chien.
Mm-hmm.
Pourquoi pas? Vous pouvez aussi mettre un filet, vous savez, entre les sièges avant et les sièges arrière pour qu'il n'aille pas devant.
Ouais.
Vous pouvez aussi le mettre dans une caisse de transport. Et les chats, par exemple, doivent être dans des caisses de transport et non pas être sur la plage arrière à bronzer au soleil.
Ça c'est pas bon,
très dangereux.
RMC, c'est au 32-16.
34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Et voilà, 7h35, le retour du week-end des experts et les animaux jusqu'à 8h avec Laetitia Barlerin. Ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. 2 heures dédiées à l'auto avec un spécial mandataire entre 9h et 10h. Vous savez, ces vendeurs d'automobiles à prix cassé qui sont sur le web, mais aussi maintenant dans des vrais magasins, hein, qu'on peut retrouver. Comment peut-on avoir 10, 20, 30, 40% de réduction sur ces véhicules? Quels sont les risques? On verra ça tout à l'heure avec Jean-Luc. Laetitia, on poursuit. On parle des abeilles ce matin. Et puis après avoir expliqué justement pourquoi les abeilles étaient décimées, hein, ces dernières années, pourquoi on en voyait moins. Maintenant, on va essayer quand même d'être un petit peu plus positif.
Et installer une ruche,
pourquoi pas?
Eh bien oui, pourquoi pas? Et nous sommes avec Claude Merle, qui est vice-président de l'abeille dauphinoise. C'est le syndicat d'épiculture de l'Isère. Et surtout co-auteur du livre « J'installe une ruche dans mon jardin » aux éditions Terre Vivante. Claude, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, vous êtes horticulteur de métier et apiculteur de passion, comme vous présentez. Et donc, vous proposez dans votre livre d'installer une ruche dans son jardin. Alors, hormis peut-être la récolte de son miel, ce qui est quand même déjà un intérêt, quel est l'intérêt d'avoir une ruche, sa propre ruche dans son jardin?
Donc, c'est d'abord son rôle de pollinisateur qui est mis en avant là dans le fait de posséder une ruche dans son jardin. C'est vraiment le rôle premier de l'abeille. Hein. C'est pas tellement pour récupérer du miel, mais c'est surtout son action, son rôle dans la pollinisation des fleurs, dans la fécondation des fleurs.
C'est-à-dire que si on a un verger, si on a un potager, c'est très bien d'avoir des abeilles.
Voilà, tout à fait. Quand on a des cultures de courgettes, par exemple, il y a beaucoup de jardiniers qui ont déjà vu leurs courgettes qui s'est terminée pointue par une mauvaise pollinisation. Donc on a bien plus de fruits, on a bien plus de légumes-fruits, hein, genre courgettes ou tomates. Donc voilà, l'intérêt premier d'installer une ruche dans son jardin, c'est vraiment une action concrète envers la biodiversité. Et puis ce rôle de pollinisateur que l'abeille a, c'est son rôle premier.
Alors, vous savez que ce matin, on demande à nos auditeurs, seriez-vous prêt à accueillir une ruche chez vous? Alors, concernant Wamiz, parce que c'est un sondage à
RMC
Wamiz, sur Wamiz, il y a 36% qui disent non, j'ai peur que mon animal se fasse piquer. Alors, on a quand même 60% oui qui disent oui sur RMC, je ne sais pas.
.fr, on va regarder ça.
Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est dangereux d'avoir des abeilles dans son jardin?
Alors, l'abeille reste quand même un insecte piqueur, hein. Ça reste quand même dangereux et il faut quand même obtenir une base de formation, une petite formation d'initiation pour connaître l'insecte, sa vie, son développement. Et puis, avec quelques manipulations et quelques positionnements de ruche, on peut très bien avoir sa ruche dans son jardin ou même sur son balcon. Voilà, il faut quand même respecter quelques règles.
Alors c'est quoi les règles?
Alors justement, voilà, quelles sont les règles pour pas se fâcher avec les voisins si on peut avoir un risque avec les voisins, bien sûr.
Ah oui.
Bien sûr, il peut y avoir un risque avec les voisins, surtout si le voisin il a une piscine par exemple.
Ah.
Si l'abeille a besoin d'eau, a besoin de boire et sur les margelles des piscines, eh ben, elles vont venir boire. Et puis, les adultes ou les enfants qui courent sur la margelle, S'il marche dessus, ben voilà, l'insecte va piquer, l'abeille va piquer, alors que c'est un insecte qui n'est pas agressif. C'est pas comme la guêpe, il va pas venir vous embêter quand vous faites un barbecue, quand vous êtes à table.
Oui, voilà. Est-ce qu'on peut manger dehors quand on a une ruche dans le jardin?
Tout à fait. Moi, j'ai commencé avec mon épouse à avoir une ruche justement dans mon jardin, à quelques mètres de la maison, et mon épouse étant pas très apicultrice, a vu ça d'un mauvais œil.
Oui.
Et petit à petit, bah, la maison s'est très bien habituée, les abeilles se sont très bien habituées aux allées venues des enfants qui jouaient complètement devant, quoi.
D'accord. Donc à ce moment-là, il faut quoi? Il faut les ignorer, c'est faire comme si elles n'étaient pas là, ne pas paniquer, ne pas essayer de les faire partir.
Alors c'est pas tout à fait ça. C'est pas comme un animal, comme un chien, comme un chat. Elles sont complètement indifférente à notre présence. Hein,
Oui, parce qu'on n'a aucun intérêt. Oui,
mais c'est vrai que pour nous, qui n'avons pas l'habitude, c'est peut-être un peu stressant d'avoir des abeilles dans son assiette ou qui tournent autour quand on mange, quoi.
Voilà, alors ça, vous n'avez jamais. Vous n'avez jamais d'abeilles qui tournent autour de vous ou qui viennent dans votre assiette. Ça sera toujours des guêpes ou des frelons.
Ah, c'est des guêpes, d'accord. Et pourquoi ça?
Parce qu'elle préfère les fleurs.
Son seul intérêt, c'est elle est captée, elle est vraiment très attirée par le nectar des fleurs.
D'accord.
Ce produit sucré qui lui sert d'énergie pour pouvoir voler. Donc, elle ne trouvera aucun intérêt. Par contre, si vous êtes au petit déjeuner sur votre terrasse avec un joli pot de miel, là, elle aura beaucoup d'intérêt et vient venir vous trouver et vous trouver très sympathique.
Alors, pour tous ceux qui sont vraiment nuls comme moi, quelle est la différence entre une abeille et une guêpe?
C'est déjà la forme et la couleur. L'abeille est plus un petit peu plus carrée et surtout est très poilue, très duveteuse. Elle a un poil très important sur tout le corps. Et justement, ces poils servent à capter les grains de pollen qui après, par des séances de peigne, hein, d'action de peignage, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, elle forme une pelote de pollen sur sa patte arrière. Et c'est grâce à ses poils qu'elle va pouvoir transporter ce pollen. Et donc c'est ça la grosse différence entre l'abeille et la guêpe, c'est beaucoup de poils pour l'abeille, un petit peu carré, un petit peu mastoc, on va dire, alors que la guêpe, c'est comme la taille de guêpe, hein, voilà, elle est beaucoup plus fine. D'accord. Et elle est toujours noire et jaune.
Et c'est elle qui viendra nous embêter quand on pique-nique, et pas l'abeille.
Voilà.
Tout à fait.
Alors, si on décide d'avoir une ruche dans son jardin, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire appel à un apiculteur professionnel pour qu'il vienne installer cette ruche?
Alors, je pense que l'apiculteur professionnel a une charge de travail immense et n'a pas tellement le temps de s'occuper de l'apiculteur amateur ou familial. Donc, c'est plutôt des associations, des syndicats départementaux. Dans tous les départements, vous pouvez rencontrer ça, des associations, des clubs, des syndicats, d'apiculteurs qui seront là pour vous initier, vous donner des bases et les règles. Hein, chaque département, il y a des distances à respecter par rapport aux voisins, par rapport à des maisons, par rapport à des habitats collectifs. Donc,
ça s'improvise pas,
on va dire. Et donc, faut mieux se rapprocher de ces clubs, associations, syndicats. Et
d'accord. Oui. Alors Claude,
et non pas prendre. Oui.
J'ai l'impression qu'on fait du bricolage à côté de chez vous, non?
C'est ça. C'est un petit gamin qui est réveillé là et qui.
Ah oui, qui commence à
attend le petit déjeuner et qui commence à.
Ah oui, à manifester. Voilà. Alors écoutez, ce que je vous propose, vous allez rester encore quelques minutes avec nous, d'autant qu'on a Bernard qui nous a appelé au 3216 et qui est apiculteur amateur et qui voulait intervenir ce matin. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Oui.
Bienvenue Bernard.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous êtes apiculteur amateur, vous avez une ou plusieurs ruches, je sais pas.
Ben oui, j'ai une trentaine de ruches et je pratique l'apiculture amateur depuis maintenant plus de 20 ans.
30 ruches. Alors, 30 ruches, ça nous fait combien de pots de miel?
Oh, ben écoutez, moi, comme je suis apiculteur amateur, je ne transhume pas, hein, parce que tous les professionnels transhument, comme vous le savez.
Oui.
Et donc, quand j'arrive à faire 10 kilos de miel par ruche, je suis content. Voilà.
C'est bien déjà, attendez, c'est sympa. Bon.
Puis un petit pot pour nous, quoi.
Oui, bien sûr.
Et vous êtes.
Vous êtes tout gourmand.
Ah, j'adore le miel.
Vous êtes dans quelle région, Bernard?
Eh bien, je suis dans le sud-est, près de Toulon.
De Toulon, d'accord. Alors, vous vouliez mettre en garde, malgré tout, nos auditeurs qui voudraient se lancer dans l'apiculture. C'est pas aussi facile que ça?
Eh oui, comme vous avez très bien dit, il y a beaucoup de pertes dans les colonies, etc., souvent inexpliquées. Et donc, j'attire l'attention de tous les apiculteurs amateurs qui voudraient se lancer dans l'apiculture, qu'il faut absolument suivre des cours, comme il vient d'être dit, ou se rapprocher d'un apiculteur professionnel ou amateur, plutôt amateur parce qu'il aura plus de temps pour vous consacrer. Et donc, moi, je vous conseille aux apiculteurs vraiment de loisirs, comme moi, de se rapprocher d'un rucher école, qu'il y en a pratiquement dans tous les départements, comme il vient d'être dit, de suivre des cours théoriques et surtout des cours pratiques, parce que c'est là qu'on apprend vraiment. Et ça, c'est sur, ce n'est pas simplement que 3 ou 4 cours, mais bien une bonne douzaine de cours qu'il faut avoir.
Est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour s'occuper d'une ruche? Vous en avez 30, vous, mais
non, est-ce qu'il faut beaucoup de temps? Ça prend du temps en cette saison, parce que bon, ça va être la grande mêlée, là, avril-mai dans notre région, et donc ça prend forcément du temps pour s'en occuper, parce que c'est là ici comme maintenant qu'on est découvrir après l'hiver comment, quel est le comportement de la reine, est-ce qu'il y a des provisions à l'intérieur de la ruche, il faut changer les cadres, il faut nettoyer, etc. Enfin, il y a beaucoup d'opérations au mois de mai et juin. Mais après, à part la récolte du miel, qui est, pour moi, ça va être mi-juillet, ça ne demande pas énormément de temps.
D'accord.
Et puis, quelle satisfaction de déguster son propre miel. Ça, ça doit être formidable quand même.
Tout à fait. Tous les collègues qui dégustent mon miel, enfin, surtout les randonneurs, parce que c'est des gros consommateurs de miel, eh bien, ils en sont très satisfaits, voilà.
D'accord. Eh bien, merci Bernard pour ce témoignage.
Merci Bernard.
Merci.
Voilà, on vous enverra l'adresse d'RMC, hein.
Pour le pot de miel.
Pour le pot de miel.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée.
Laetitia, on revient dans un instant?
On revient dans un instant.
8h moins le quart. On va encore parler pendant quelques minutes des abeilles. Le 32-16 à votre disposition, bien animaux@rmc.fr si vous voulez témoigner ou poser votre question. Et puis, dans quelques instants, on parlera d'une nouvelle course de chiens traîneau à l'Alpe d'Huez avec notre invité. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h48, c'est RMC, c'est le week-end des experts, les animaux. Et encore quelques instants consacrés aux abeilles, Laetitia avec notre invité Claude Merle, auteur, co-auteur du livre « J'installe une ruche dans mon jardin ». Je récolte mon miel, je protège les abeilles aux éditions Terre Vivante, visiblement. Laetitia?
Alors Claude, juste quelque chose de pratique. Est-ce qu'il faut une autorisation de la mairie pour installer, pour installer une ruche dans son jardin?
Non.
Non.
On a une obligation de déclaration de ruche tous les ans qui se fait au niveau du département, niveau de la DDPP. La direction départementale de la protection des populations. Donc une fois par an, on déclare ces ruches, mais on n'a pas d'autorisation. Par contre, on doit se conformer à la réglementation du département qui donne des distances par rapport aux propriétés voisines ou aux maisons. Voilà.
Justement, par rapport à une maison, à combien de mètres doit être la ruche? Est-ce qu'il y a un minimum de surface de jardin?
Alors, surface minimum de jardin, non, parce que l'abeille, eh bien, elle est libre. Hein. Mmh. Elle ne s'occupe pas des limites de propriété, on va dire. Hein. Donc, elle a un rayon de butinage de 3 km autour de la ruche. Donc, vous voyez, ça va très loin. Hein. Voilà. Et puis, au niveau distance, c'est une vingtaine, en Isère, c'est une vingtaine de mètres d'une maison, ou 10 mètres d'une propriété voisine. Et si on peut mettre des canis ou une haie devant la ruche qui dépasse 1 mètre de chaque côté de la ruche et qui fait 2 mètres de haut, eh bien cette distance est annulée parce que l'abeille sera obligée de prendre son envol presque à la verticale et donc ne s'occupera pas de son environnement immédiat. Et donc c'est aussi comme ça qu'on peut se protéger et avoir une ruche dans le jardin avec une simple protection, une haie ou une planche. Et si la ruche est derrière, eh bien elles viendront pas voir un petit peu ce qui se passe devant la ruche.
Est-ce que pour finir, on peut tout simplement louer son jardin, enfin son terrain, à un apiculteur?
Alors
pour qu'il installe une ruche, ça se fait ou pas? Je sais pas.
Ça se fait un petit peu parce qu'il y a des gens, des grands vergers par exemple,
oui,
des maisons secondaires. Et l'intérêt de l'abeille, comme je vous le disais, c'était la pollinisation. Donc, il y a vraiment un intérêt. Professionnellement, ça peut se louer aussi au niveau des arboriculteurs, puisque son action de pollinisation, c'est 40% de fruits en plus quand même, hein, donc c'est pas négligeable au niveau de la production. Donc voilà, des amateurs qui ont des vergers, qui ont des résidences secondaires, bah, sont contents aussi d'accueillir des ruches dans leur propriété.
Et ils sont payés en pot de miel ?
Voilà, la monnaie, c'est le miel, oui. C'est de l'or, c'est de l'or.
Ah bah c'est de l'or maintenant, hein. C'est vrai.
Oui.
Merci beaucoup Claude.
Merci beaucoup.
Et ben c'est moi qui vous remercie. À bientôt.
À bientôt. Alors si vous voulez en savoir plus sur une ruche dans son jardin, bah je vous conseille justement d'acheter le livre de Claude Merle qui s'appelle J'installe une ruche dans mon jardin, tout simplement aux
éditions. C'est très bien fait, hein.
Terre vivante
avec
beaucoup.
Énormément de photos, des pas à pas, etc. C'est vraiment très didactique, très sympa. Laetitia, allez, on change d'univers. On va passer de l'abeille à une course de chiens de traîneau à l'Alpe d'Huez.
Voilà, une course qui a été initiée par le docteur Dominique Grandjean, qu'on reçoit régulièrement sur cette antenne, qui est professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort et qui est un des grands spécialistes du chien de sport et surtout du chien de traîneau au monde. Dominique, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette course, vous avez initié une course de chien de traîneau dans les Alpes qui aura lieu le week-end prochain à partir de vendredi, samedi, dimanche à l'Alpe d'Huez. Elle s'appelle la Leca Road. Alors, Leca, pour la petite histoire, c'est chien en patois savoyard, je crois bien.
Ouais.
Alors, présentez-nous un petit peu cette course.
Oh ben, c'est pas difficile. On a voulu faire renaître, en fait, une course qui a existé il y a plus de 20 ans, qui s'appelait l'Alpirode.
Oui.
Qui était qui fut la première course par étape organisée au monde. À l'époque, ça avait révolutionné un petit peu l'univers du sport de traîneau. Et qui était une course qui était entièrement dédiée à la notion de respect du chien, respect de l'homme, respect de la nature. Et bon, ces derniers temps, on a vu certaines déviance par rapport à ces notions de respect. Alors on s'est dit, bon, on va retourner vers ça, on va retourner vers des choses simples. Et puis on a décidé donc de monter les carottes. Alors l'édition du prochain, bah, c'est le lancement en fait. Donc on va développer sur la station de l'Alpe d'Huez 4 étapes avec un total de 160 km de course.
Il y a 18 traîneaux.
Oui, on a une vingtaine d'inscrits, mais on sait que on en a deux pour le moins qui viennent de participer à l'Iditarod en Alaska, et on n'est absolument pas sûr qu'ils seront revenus en France d'ici le week-end prochain. Donc pour sûr, on a 18 attelages sur le plateau, ce qui est pour nous remarquable, parce que pour un lancement, on disait bon, on va avoir une dizaine d'attelages et de bons attelages, bien évidemment. Et puis finalement, on a une vingtaine avec 6 pays qui seront représentés, donc c'est parfait.
Alors, vous venez de parler de bien-être, de respect de l'animal. Alors, je sais que le bien-être des chiens pendant la course est vraiment un souci pour vous, parce qu'on a vu dans d'autres courses de chiens de traîneau, bah, des chiens qui n'étaient pas forcément bien traités, parce qu'il s'agit de courses, il s'agit d'épreuves, de gagner. Comment faites-vous pour garantir le bien-être d'un chien de traîneau ? Sur quel point vraiment vous êtes
La présence efficace 24 heures sur 24 d'un groupe de vétérinaires qui doivent être des gens non seulement passionnés mais réellement bien formés et quelque part un peu spécialisés dans l'approche, quoi. C'est-à-dire des gens qui connaissent le chien de travail, qui connaissent surtout le chien de traîneau. C'est un gros travail qui se fait depuis des années maintenant en amont avec ensemble des mocheurs, donc des concurrents, pour leur apprendre un certain nombre de choses, discuter avec eux, pour les aider dans la préparation. C'est aussi et surtout, je dirais, le design des pistes, ce qui est essentiel dans une course de chien de traîneau et ce qui fait le respect de l'animal, quelque part. C'est la nature de la piste, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se lancer dans des choses qui ressemblent à de l'alpinisme avec des descentes un petit peu dangereuses. Alors, il faut trouver ces pistes. C'est pas simple. Il va falloir faire le tri dans les sites.
D'accord.
Et ça se solde pour nous aussi dans une originalité de cette course, c'est qu'on va courir au profit d'une fondation.
La fondation Un Cœur.
Voilà, la fondation Un Cœur.
Fondation au service de la recherche en cardiologie, hein.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Cardiologie animale et humaine, et c'est fondamental pour nous, c'est bien dans l'état d'esprit de cette course.
10, 11 et 12 avril, donc, à l'Alpe d'Huez. Merci beaucoup, Dominique Grandjean.
Merci. Nous mettons un...
Merci,
Dominique. Nous mettons un lien sur cette course qui s'appelle la Lécarode, L-E-2-K-A-R-O-D, et qui a lieu. Donc, si vous êtes dans le coin, allez-y, parce qu'il y a beaucoup d'animations qui sont faites autour de cette course, dont des initiations aussi aux chiens de traîneau, du ski during, skier avec son chien. En tout cas, si vous êtes dans le coin, voilà, vous avez un week-end déjà tout prévu à l'Alpe d'Huez.
Laetitia, on termine avec notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. Alors là, on vous en a trouvé une pour Pâques qui est super, franchement. Imaginez des bulles terriers, mais tous, comment dirais-je, les uns sur les autres, sur un canapé, sur un petit siège, comme ça, qui sont en train de se reposer. Et il y en a un qui arrive et qui se jette dessus, comme ça, sur les autres. Et ça donne une position... Ils ont l'air bien, hein, tous.
Oui.
Mais ils sont en vrac. Voilà, j'arrive pas à trouver un autre mot pour décrire...
Des chiens en vrac.
Ils sont en vrac, ils s'installent n'importe comment... Et ils ont l'air heureux, ils se reposent.
Oui. Mais celui qui est vraiment en dessous, il ne dit rien.
Il ne dit rien.
Et ça celui doit qui lui est... faire un massage.
Voilà, et celui qui est au-dessus est n'importe comment. Voilà. Mais il est bien aussi et il s'endort. C'est très drôle et c'est à retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. D'ores et déjà, vous cliquez sur j'aime pour nous retrouver sur la page Facebook. Laetitia, on sera là dimanche prochain avec une émission raccourcie puisqu'il y aura le Grand Prix de Chine à suivre.
On sera là de 6h à 7h et non plus de 7h à 8h. Et là, vous suivrez bien sûr le Grand Prix.
Voilà, et on sera de retour pour l'émission complète intégrale et bien dans 2 semaines. Dans un instant, ça sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoint pour 2 heures dédiées à votre voiture. Et puis bien sûr, toutes vos questions auto au 32-16. À tout de suite après la météo et les infos.
Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr.